그런 게 너무 좋아, tout le monde? C'est avec beaucoup d'émotion donc on commence ce premier conseil municipal, enfin ce deuxième et ce premier que nous organisons sous cette nouvelle municipalité. Je souhaitais, avant de ouvrir la séance, prendre 10 minutes de temps pour faire un petit bilan des 5 semaines qui se sont passées depuis l'installation de ce nouveau conseil municipal. Donc depuis ces 5 semaines, il s'est passé pas mal de choses sur Leval et aux environs. Tout d'abord, nous avons un siège de vice-présidence, donc une représentativité à l'échelle de l'agglomération de la Provence Verte. Et parmi ce siège-là, il y a aussi un siège qui était d'élection, donc avec Anne Reynaud sur le siège. Bien sûr. Donc l'élection s'est très bien passée et dès le lendemain donc de ces élections, nous avons rencontré le président de l'agglomération Provence Verte et nous avons discuté du dossier de la crèche. Crèche qui devait se trouver sous la déviation à côté donc du groupe scolaire, et le président nous a dit qu'il n'y avait aucun problème pour que ce projet se réalise ailleurs, sur un terrain de notre choix de la commune. Comme quoi, avec une discussion autour d'une table, on peut arriver donc à développer un projet pour les petits touts dans un environnement beaucoup plus adapté et plus simple. Ensuite, le premier arrêté qui a été réalisé, ça a été l'ouverture de la place Gambetta. Donc ouverture donc pour un espace partagé, en zone bleue, évidemment, 24 heures sur 24, sauf une fermeture lors du marché hebdomadaire, le vendredi, pour qu'il puisse se dérouler, donc, surtout en ce moment, pour le début du printemps. Donc voilà. Aussi, un autre point, nous avons appuyé l'ouverture du café des sports, en nous fournissant des renseignements et en aidant aussi. Donc aujourd'hui, nous avons deux bars qui sont ouverts sur la place et une place qui est ouverte à tous les habitants du Val. Autre point important, nous avons lancé un programme d'embellissement et de réappropriation de l'espace public, donc avec un premier ménage, donc le Karcher, sur l'ensemble des places élaborées du centre-village. Nous avons parlé de retrouver, redonner une attractivité au centre ancien. C'est chose faite, et comme vous pouvez le voir sur la présentation, il y avait quand même pas mal de crasse sur l'ensemble des rues. Autre point aussi, c'est évidemment l'entretien tout simple, hein, donc le désherbage qui a été réalisé, qui est en cours aussi. Je remercie les services techniques pour ce déploiement au cours de ces 5 dernières semaines. Autre point aussi, c'est tout simplement la réhabilitation des façades, Karcher, etc., donc sur les différents murets de la commune. On peut voir ici. Et nous en avions parlé, la préparation du jardin des remparts. Donc là, nous avons procédé à un premier nettoyage en prévision de mettre en place les prochaines semaines, donc un jardin de type médiéval. Autre point fort aussi, c'était la réappropriation du jardin des Gorguettes. Donc là, il y a les peintures qui ont été réalisées sur les grilles, peintures qui n'ont pas été réalisées depuis plus de 20 ans, à ce qui paraît, et une réappropriation aussi de l'ensemble du jardin, donc avec des plantations qui vont être mises en place au cours de ce printemps. Donc ça, c'est déjà, on a travaillé sur l'attractivité assez rapidement, et je remercie les services techniques de leur dévouement et du rôle dans cette action. Autre point aussi, c'est la réouverture, enfin la remise en place du service urbanisme, un service qui était au ralenti, qui avait de grandes difficultés. Et donc aujourd'hui, nous travaillons avec le service urbanisme, nous recevons aussi les pétitionnaires, les doléances, pour accompagner au mieux, et nous œuvrons pour améliorer de plus en plus ce service qui est très important. Qui parle d'urbanisme nous fait penser à PLU, donc le plan local d'urbanisme. Nous en avons parlé, nous avons reçu, la semaine qui a suivi notre élection, le bureau d'études, BGAS, pour discuter de la procédure à suivre pour approuver enfin ce PLU, tout en le mettant en modification. Donc nous travaillons avec eux en ce moment pour œuvrer dans cette approbation. Autre point fort aussi, c'est l'ouverture de la permanence d'élus. Sans rendez-vous, tous les samedis matins, donc il y a des élus en mairie, vous pouvez venir entre 9h et 12h, donc pour tout renseignement ou discussion, ou si vous voulez apporter votre réflexion et si vous avez des idées d'aménagement, d'amélioration pour le quotidien. Donc nous sommes vraiment sur cette idée de proximité, on veut vraiment la cultiver, et à terme, d'ici quelques semaines aussi, nous irons plus loin avec ces assemblées citoyennes que nous allons mettre progressivement. En ce qui concerne l'action sociale, nous avons continué à recevoir les personnes pour les accompagner sur l'action du logement. Nous sommes occupés aussi d'une personne âgée qui vivait dans un logement insalubre. Nous sommes occupés pour la faire accompagner au mieux. Ça fait 3 ans qu'elle est dans cette situation. Et c'est une réussite et nous continuons à suivre cette personne et d'autres personnes aussi. Concernant l'épicerie solidaire, pour certains d'entre vous, vous avez pu constater que cette épicerie, pour l'instant, n'existe plus sur la commune. Il n'y a plus de livraison, qui était déjà avant ce mandat-là, hein, qui a commencé il y a plusieurs semaines, hein, dans le marché. Donc c'est l'association de Carcès qui a de grosses difficultés. Et donc là, nous sommes en pleine réflexion, en pleine action pour trouver des solutions pour accompagner les personnes qui dépendent de cette épicerie. Nous avons aussi représenté la commune Duval, donc au-delà de l'agglo, donc il y a eu un conseil communautaire qui s'est déroulé, 2 bureaux communautaires. Nous avons aussi participé au sein de réunions, donc sur le SCOT, qui est le schéma qui va un petit peu zoner les grandes directions des PLU. Donc ça c'est le SCOT, c'est moi-même qui représentais la commune, mais aussi au sein du PLH, donc c'est le programme local de l'habitat, qui est essentiel pour développer l'habitat de demain, et notamment l'accompagnement sur du logement social. Donc ça c'est Alain Berti qui est allé. Je vais te laisser la parole juste pour nous dire en 2 mots ce qui a été dit lors de cette réunion.
Oui, alors réunion qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours, fin mars, au sein de l'agglo. Au sein de l'agglo à Brignoles. Cette réunion a confirmé plusieurs choses. Tout d'abord que le PLH relève de la compétence de l'agglomération et donc des 28 communes qui la composent. Deuxièmement, on n'examinera plus ces logements sociaux simplement au sein des 8 communes concernées de plus de 3500 habitants. On va l'examiner et l'observer au sein du territoire de l'agglomération, du territoire. Et troisièmement, et là, je dirais pour les valeurs et valeurs et pour, je dirais, notre budget, sachez que ce que nous disions se confirme, l'exemption est triennale, se confirme 2017-2019, et lors d'un prochain conseil qui aura lieu, c'est ou mai ou juin, de ne pas être plus précis, mais c'est très prochainement, l'exemption 2019-2021-2022 sera reconduite.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ça nous laisse le temps.
Ça nous laisse le temps de réfléchir, d'examiner les meilleures solutions quant à cet objectif de logement social.
Autre point aussi, c'est la participation au PCAET, donc c'est le plan climat air énergie, donc c'était à Saint-Maximin, c'est aussi des réunions de réflexion, comment on accompagne la transition énergétique aussi, le développement durable, au sein des communes de l'agglomération provençale. En ce qui concerne les actualités de la commune, aujourd'hui, il y a les travaux des écoles maternelles et primaires, qui ont débuté pour ces vacances, qui devraient se terminer normalement le vendredi, juste avant le week-end de Pâques, avec une possibilité de retard selon. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire en urgence le ménage et la réinstallation de l'école pour que la rentrée le mardi, donc après le lundi de Pâques, se fasse en toute sérénité pour les petits tout. Donc moi, je voulais faire un appel aussi auprès des conseillers municipaux. S'il y a un retard, donc le samedi, c'est le personnel qui s'est porté volontaire pour venir faire ce ménage. S'il y a un retard, je demande que certains conseillers municipaux qui sont disponibles de venir le lundi pour faire ce ménage afin d'assurer au maximum les meilleures conditions pour les enfants lors de la rentrée du mardi. Il pleut aujourd'hui, il y a environ une semaine, il a plu au foyer, donc grande suite dans notre foyer tout neuf. On a accueilli 50 pèlerins, des jeunes pèlerins qui étaient sur le passage de la commune, donc ça nous a mis en grande difficulté pour les accompagner au mieux. On a pu les héberger, on a pu les accompagner, tout s'est bien passé. Et donc là, nous sommes en train de voir avec les différents entrepreneurs qui ont réalisé ces travaux-là pour voir ce qu'il en est de cette fuite et de trouver une solution afin d'éviter que l'ensemble du bâtiment s'abîme et se dégrade. Autre point important aussi, donc, c'est l'arrivée d'un médecin le 11 mars qui se trouve dans la rue principale, là où Madame Jamaï était aussi, donc au premier étage. Et hier, nous avons reçu une deuxième médecin généraliste qui serait intéressée de venir sur le Val, et donc est venue nous rencontrer, faire la visite du village pour voir un petit peu la teneur de son projet aussi. Et elle était très intéressée. Donc de cette visite. En termes d'actualité, la municipalité a participé au carnaval organisé par la Cour Valinque en payant une petite fanfare et en encadrant la sécurité donc, de ce carnaval qui s'est très bien déroulé. Les parents ont été très heureux et c'était une très belle journée de printemps. Printemps, symbole du changement, du renouveau, donc c'était vraiment formidable. Et enfin, autre point, c'est les événements à venir. Donc la chasse aux œufs le 21 avril 2019 au Jardin des Gourguettes et la traditionnelle fête de la fontaine le 1er mai avec l'Aïoli. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, il y a des affiches qui sont un petit peu mises un peu partout sur l'ensemble de la commune, donc n'hésitez pas à venir participer à ces deux événements. Et le dernier point, puisqu'on parle des fontaines, donc ça me fait penser, donc sur les fontaines aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'eau qui coule dans les fontaines? Ça ne dure pas d'aujourd'hui, hein, ça date d'il y a quelques mois. En fait, c'est que la pompe a grillé, parce que nous avons regardé, nous sommes occupés, donc avec notamment Luc qui est allé voir aussi, la pompe n'est pas du tout adaptée à ce type de dispositif, c'est-à-dire que c'est une pompe de forage qui est faite pour ne pas tourner pendant 24 heures sur 24 et 365 jours de l'année. Donc c'est une pompe qui ne peut pas tenir, donc c'est plutôt une pompe de fontaine qu'il faut acheter, une pompe qui est adaptée à faire son travail pendant 24 heures sur 24. Donc nous sommes en train de racheter une nouvelle pompe, je vois, pour racheter cette pompe-là et qu'on ait assez rapidement à nouveau de l'eau qui coule dans le fontaine.
Alors, Jérémy,
oui.
Vu que le conseil n'est pas encore ouvert,
tout à fait, oui.
Est-ce que je peux intervenir?
Allez, juste alors, deux, trois questions et après on commence.
Les fontaines, jadis, les fontaines étaient alimentées gravitairement.
Oui.
Alors, moi je pense que, d'accord, il y a un câble ERDF qui est dans le canal, ce câble doit être retiré. Donc, ce câble de fontaine, il paraît-il pour une aiguille, bon, maintenant, je ne sais pas combien il y a de montage dedans. Bon, et en effet, que moi je comprends très bien les ouvriers ne veulent pas rentrer dans le canal,
sachant
qu'il y a ce câble. Parce que zéro n'existe pas. Moi, quand j'étais élu, j'ai accompagné un agent du RDF, il m'a dit, mais on ne peut pas laisser un cadre comme ça dans le canal. Alors, j'avais entendu dans le coup de vague, un ancien travaux, que ce cadre allait être retiré. Alors, moi, je demande à mes gens de faire les collectifs municipaux, qu'une fois que ce cadre est enlevé, de prendre à bras le corps le canal, parce que le canal d'arrosage, ça fait partie du patrimoine communal
tout à
du village, hein, autant que les bâtiments, hein, autant que... Parce que de tout temps, les fontaines, elles vont être alimentées gravitairement. Alors, les années où il n'y a pas d'eau, ça a été le cas quand, à l'époque, moi, c'était sous la municipalité de M. Mariette, peut-être, je ne m'en rappelle plus, hein, quand il y a eu une pénurie d'eau, donc on a pompé dans le puits de Carmagnol. Après le puits de Carmagnol, l'eau, elle s'est infiltrée ailleurs, et sous la municipalité de M. Gauthier, on a refait le puits à côté, et on tombe dans ce puits. Mais moi je dis que quand il y a de l'eau, on peut très bien alimenter les fontaines sans pas, naturellement, par gravitation, sans passer par le pompe. Parce qu'une pompe qui tourne à 24, je veux dire, ça tourne.
Alors,
deux secondes. Une fois que l'ARDF aura levé ce cadre, il y a une fuite qui est principale, qui est primordiale. C'est quand le canal traverse la départementale 754 au niveau du garage passe.
Oui.
Là, le canal passe entre le ballon de Jambas et la route. Le canal. Moi, j'y suis passé à 4 pattes. Et le canal, il est fait avec les gyroplates, les jouets avec le vibration des camions, ils se sont fait effriter. Et une bonne partie de l'eau du canal s'infiltre à travers les jouets.
Tout à fait.
Si on arrive à combattre la fuite, on peut très bien faire couler les fontaines gravitairement, et on peut très bien faire couler les fontaines gravitairement, quand il y a de l'eau, cette année, il y a de l'eau.
Alors, ce que je te propose, Galit, c'est tout à fait, nous, on était partis sur ça aussi, donc d'être dans l'urgence d'apporter des réponses, et comme ça, on a cette pompe qui peut nous servir, mais derrière, évidemment, à terme, il faut prévoir un plan d'entretien de ce canal-là. Et ce que moi, je te propose, c'est qu'on ouvre un comité technique. C'est-à-dire un comité technique entre élus, donc pour les responsables par exemple de la gestion des travaux, et habitants valois, pour qu'on réfléchisse ensemble comment on peut aménager et comment on peut accompagner ce projet de réhabilitation du canal.
Si tu crées une commission pour le canal, moi je viens de partir.
Ben voilà, donc on fera un comité extra-communal. Exactement. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, donc je te propose qu'on se voit après le conseil et on en discute, et comme ça on ouvre ce comité-là qui est ouvert à l'ensemble des valois.
Je crois que faire que quand ce cadre aurait été enlevé.
Tout à fait. Alors, on va commencer le conseil, par contre. Donc, je te propose qu'on fasse ce comité-là. Et donc, ce comité qui sera créé aussi, donc, rendra compte aussi avec les valois. Donc, on organisera des réunions de travail pour l'entretien et une présentation de ces travaux à réaliser. Oui ? Ok. Alors, je vous propose que l'on commence. Donc, j'ouvre la séance du conseil municipal. Et donc, je vais d'abord procéder à l'appel de l'ensemble des membres de ce conseil municipal. Christian Bentoumis.
Présent.
Corinne Rinaudot.
Présent.
Alain Alberti.
Présent.
Max Fabre.
Présent.
Anne-Marie Reynaud.
Présent.
Laurence Vernemont.
Présente.
Claude Torizilla.
Présent.
Norbert Giraud.
Présent.
Julie Brébant.
Présente.
Gisèle Conforti.
Présente.
Pierre Verdon, donc il m'a donné un pouvoir pour Claude Torizilla. Anastasia Bringuier.
Présente.
Luc Pernic.
Présent.
Émilie Calabria.
Présente.
Françoise Bredinski.
Présente.
Steve Courdouan.
Présent.
Pénélope Riz.
C'est moi qui ai le pouvoir.
Voilà, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc elle a donné pouvoir donc, à Anne-Marie Reynaud. Julien Lassoc.
Présent.
Violaine Champagnac.
Présent.
Michel Morel.
Présent.
Pauline Nepveux.
Présent.
Ludovic Chrétien.
Présent.
Bernard Saulnier.
Présent.
Yves Cœurdeuil.
Présent.
Ingrid Gatquière.
Pouvoir.
Qui a donné un pouvoir donc à monsieur Bernard Saulnier. Et Jean Culinati.
Présent.
Présent. Donc, le couronne est atteint. Donc, je vais désigner le secrétaire de séance. Je vous propose que ce soit le plus jeune d'entre nous, donc Steve Courdouan. Je te remercie. Donc nous nous réunissons aujourd'hui donc pour premièrement approuver le PV de la réunion du 16 mars 2019, le fonctionnement du conseil municipal délégué et les commissions, c'est-à-dire l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal, les indemnités des élus, les commissions municipales avec l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, qui est une commission obligatoire, désignation des membres du conseil municipal siégeant au sein des structures intercommunales, donc c'est pour représenter la commune et avoir donc ces services-là aussi, donc le CIVU de la Loube, CIMIELEC du Var, SPLID 83, le groupement de commandes et la mission locale de Brignoles, avec les associations des communes forestières du Var et la Fédération des villes jumelées. Ensuite, nous élaborons donc la délibération du CCAS, donc qui est le Comité communal d'action sociale, en déterminant le nombre des élus et en votant les représentants du conseil municipal au sein du CCAS. Nous passerons ensuite sur les délégations au maire en application des dispositions de l'article L22-22, du CGCT. Et enfin, nous aborderons un aspect sur les finances, qui est un classique sur l'installation d'un nouveau conseil municipal, avec l'établissement de la convention avec la trésorerie portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux, excusez-moi, et enfin, les indemnités de conseil et d'assistance pour le receveur municipal. Donc, nous allons passer tout d'abord à la première délibération, qui est donc l'approbation du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2019. Donc, qui est contre ? Donc, une personne, donc Monsieur Bernard Saulnier. avec le pouvoir, Madame Gacquière ou pas?
Non, non.
Non?
Je suis pour.
D'accord. Qui s'abstient?
Allez voir si vous écoutez.
Vous voyez, je suis très assidu. J'observe bien là où je suis. Qui s'abstient? Personne. Donc, à l'unanimité, donc, le procès verbal de la réunion du 16 mars est approuvé. Ensuite, donc nous allons passer à la première délibération qui porte sur l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Donc je vous informe que l'assemblée délibérante de l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation. Donc nous sommes largement dans le délai. En conséquence, et considérant l'installation du conseil municipal en date du 16 mars dernier, faisant suite au scrutin électoral du 10 mars, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur du conseil municipal 6 juin annexé que chaque membre donc, du conseil municipal a reçu. Donc pour, là je m'adresse, je fais un petit aparté pour l'Assemblée, si des personnes souhaitent pouvoir consulter ce règlement, il n'y a aucun problème, on pourra vous le fournir à la fin ou vous le transmettre par mail. Donc qui est contre ce règlement? Oui. Oui, d'accord. Et vous êtes 3, donc 3 personnes contre, donc Monsieur Saulnier, Monsieur Cœurdeuil et Madame Gacquière, qui s'abstient. Donc à la majorité même. Donc à la majorité, donc nous adoptons le règlement intérieur. Alors ce règlement, il sert évidemment à préciser le fonctionnement du conseil municipal, à nous donner un petit peu des règles à suivre qui vont plus loin que ce que le code général nous donne. Concernant les indemnités des élus. Donc, deuxième délibération, dans la démarche qui est la nôtre, de maîtrise des dépenses publiques, il nous a paru essentiel de joindre les actes aux déclarations. C'est pour cela que nous avons déjà pris la décision, lors du conseil municipal précédent du 16 mars dernier, de limiter à 5 le nombre des adjoints au maire, ce qui diminue mécaniquement l'enveloppe financière pouvant être allouée aux élus, puisque celle-ci est déterminée en fonction du nombre des adjoints. C'est le nombre d'adjoints qui donne l'enveloppe à répartir en tant qu'indemnité. Donc le maximum est de 8 pour la commune du Val. Nous avons voté pour 5. Alors que nous devons aujourd'hui nous prononcer sur la répartition de ces indemnités au sein du conseil municipal, je vous propose donc de continuer dans la mise en œuvre de nos orientations en décidant d'indemnités qui soient identiques entre les différents élus, qu'ils soient adjoints ou conseillers municipaux, dispensant d'un domaine de délégation et y consacrant un investissement important. Ceci signifie que les adjoints qui ont un rôle de coordinateur pour ce mandat auront la même indemnité que les élus qui auront une délégation. À ce titre dernier, je précise que 5 conseillers municipaux, donc là j'apporte un amendement, parce que initialement dans ce que vous avez reçu comme projet c'était 4, il y a une cinquième personne, je vous citerai après par la suite qui sont ces personnes-là. Donc 5 conseillers municipaux, bien que disposant d'une délégation, m'ont informé de ne pas pouvoir y consacrer énormément de temps ou bien ne pas vouloir bénéficier de cette indemnité. Et ont souhaité à ce titre, toujours en application de la même démarche d'exemplarité, renoncer à leur indemnité. Ainsi, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 et suivants, considérant que le Code susvisé fixe des taux maximaux et qu'il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi les dites indemnités de fonction, le conseil municipal est invité à se prononcer pour l'attribution des indemnités aux maires, aux adjoints et conseillers municipaux, selon les modalités et montants portés ci-dessous. Donc dans l'enveloppe, la limite de l'enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux titulaires des mandats locaux, les taux suivants sont adoptés. Donc l'enveloppe théorique pour 5 adjoints est de 6 417,51 €. Ça, c'est le maximum. Compte tenu des différents taux à poser et du renoncement de certains conseillers, cette enveloppe-là est reportée à 5 727,53 €. Ce qui permet donc de dégager une partie de l'argent de l'enveloppe pour d'autres actions, notamment, comme on en avait parlé, pour les associations par exemple. En ce qui concerne les fonctions, donc pour le maire, moi-même, donc Jérémy Juliano, le taux retenu de cette enveloppe réduite est de 46,28%, soit un montant individuel effectif de 1 800,01 €. Ensuite, pour l'ensemble des adjoints, donc Christian Bentomi, Corinne Lange, Max Fabre, Anne Reynaud, Alain Alberti, Laurence Claude de Résilia, Norbert Giraud, Gisèle Conforti, Pierre Verdon, Luc Pernet, Émilie Calabria, Françoise Wendinski, Steve Courdouan, Pénélope Bouise, Julien Lassoc, Violaine Champagnac et Michel Morel, donc qui auront des délégations, qui auront donc un montant individuel effectif de 231,03 €. Ainsi, les personnes de la majorité qui auront des délégations et qui ont renoncé à cette indemnité sont Laurence Berlemont, Julie Brément, Anastasia Bringuier, Pauline Netveu et Ludovic Chrétien. Donc ceci nous amène donc à un montant mensuel alloué de 5 727,53 € au lieu de 6 417,51 €. À titre de comparaison, le conseil municipal de 2014 avait alloué le montant de 8 781,11 €. Ce qui fait à l'année pour notre projection, là si on avait 12 mois, sur les 12 mois, soit la somme totale de 68 730,36 €, et pour, à titre de comparaison pour 2014, c'était une enveloppe annuelle de 104 773 €. Ce qui fait une économie de 34%, soit 36 000 €, et je fais l'arrondi. Et sur la réduction de l'enveloppe, c'est-à-dire que, comment on réduit cette enveloppe, là, ça, c'est l'effet mécanique du nombre des adjoints, d'accord? Et là, c'est l'argent qui est dégagé pour être redistribué à d'autres actions, dont les associations, mais aussi ailleurs, en fonction du budget, de 8 279 €. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Donc, je vous propose de nous prononcer sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, donc, la délibération est adoptée sur les indemnités des élus du conseil municipal. Je vous remercie. Troisième délibération, donc, qui porte sur l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Cette commission est obligatoire, donc j'avais bien parlé qu'il n'y aurait pas de commission, sauf celle qui est imposée par la loi. Cette volonté de ne pas avoir de commission, c'était une volonté de travailler de manière efficace. Nous avons un mandat de sur un an d'action, donc c'est plutôt des groupes avec des délégataires qui travaillent actuellement depuis ces dernières semaines. Et on voit que c'est assez efficace au vu de l'avancée des dossiers. Donc, l'objet C porte sur l'élection des membres de la commission d'appel d'offres, vu les dispositions du code de la commande publique, vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres, et ce, pour la durée du mandat, considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 5 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, c'est-à-dire 5 et 5. Donc je vais procéder à l'appel à déclaration de candidature et au recueil des listes comportant au maximum 5 titulaires et 5 suppléants. Donc est-ce qu'il y a une liste qui souhaite se déclarer? Oui. Donc, dans quel ordre, monsieur Saunier ?
En tant que titulaire.
En tant que titulaire. Alors, là, dans la façon dont ça se procède, normalement, c'est... on va constituer une liste.
Ah, oui, c'est bon.
Donc, vous, en tant que groupe d'opposition, est-ce que vous souhaitez constituer une liste ? C'est ça, la question.
On va pas être nombreux.
C'est le choix. Initialement, je souhaitais faire une liste en vous incorporant à la commission.
Je pense que ça aurait été plus normal, c'est ce que nous avions fait, nous on avait ouvert quand même à l'opposition.
Tout à fait.
Je pense que c'était tout à fait démocratique.
Tout à fait, c'est ma volonté, sauf que la volonté légale veut qu'on présente deux listes, et comme ça, après, il va y avoir à la proportionnelle la répartition des lots. Parce que si jamais il y a des désistements, il faut qu'il y ait un remplacement rang par rang. Et donc, si on incorpore directement avec une liste de 5, lorsqu'il y a une personne qui se désiste, on se retrouve avec une commission
bien compris,
à 4.
On fait une liste de 3, puisque nous sommes de 3.
D'accord.
Voilà, donc, moi en premier, 2, M. Corbeil, et 3, Mme.
D'accord. Ok. Donc, une première liste qui est proposée, et le groupe majoritaire qui propose aussi une liste avec. Excusez-moi, j'ai pas suivi en parallèle. Donc, en titulaire, donc, Monsieur Norbert Giraud, Madame Anastasia Brinvier, Monsieur Max Fabre, Monsieur Michel Morel et Monsieur Alain Alberti. Donc ça, c'est une liste pour les titulaires. Il y a donc une liste de titulaires dans la vote. Et ensuite, concernant les suppléants, donc on a M. Luc Pernet, M. Pierre Verdon, Mme Anne-Marie Reynaud, M. Torresilia et Mme Julie Bréban. Donc ce bulletin est un bulletin secret. Donc je vais demander l'aide de M. Garnier. Et donc pour faire cela, donc il va falloir désigner deux assesseurs. Donc je propose le plus jeune entre nous, ou on peut proposer à la plus jeune, puisque vous êtes secrétaire, Anastasia Bréguier. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se portent? Oui, monsieur Jean Culinati. D'accord. Donc Anastasia Bréguier et Jean Culinati. Donc on va faire passer les enveloppes.
Anastasia, que tu veux me lever pour apporter le mur et vous la faire passer comme ça. Vous la portez et vous la présentez.
Thank you. Oui, oui, je sais. passer. À voter.
Thank you.
Donc, j'annonce les résultats du scrutin sont les suivants pour la proclamation. Donc, nombre de votants, 27. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 0. Suffrage exprimé, 27. Suffrage obtenu par la liste 1, 23 voix. Par la liste B, 4 voix. Attribution des 8 sièges à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc la liste 1 possède donc 4 sièges. Et la liste 2, soit 1 siège. Sont donc élus membres représentants de la CAO, les titulaires M. Norbert Giraud, Mme Anastasia Bringuier, M. Max Fabre et M. Michel Morel et M. Bernard Saulnier. Les suppléants sont les suivants pour la liste 1, M. Luc Bernet, M. Pierre Verdon, Mme Anne-Marie Reynaud et M. Claude Torresilla. En ce qui concerne les suppléants de la liste 2, nous avons donc M. Yves Cœurdeuil. Je propose de passer à la délibération suivante qui concerne donc l'élection des, la désignation des membres du conseil municipal siégeant au sein des structures intercommunales. Donc la première structure est le CIMU de la Louve. Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2122-25 qui dispose que le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent Code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ne fait pas d'obstacle à ce qu'ils puissent être procédés à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Je souhaite juste attirer votre attention qu'il y a 5 minutes, donc à 19h20, Penny Ruiz est arrivée et nous a rejoint le conseil municipal. Je ferme la parenthèse. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2121-21 qui dispose qu'il est voté à bulletin secret au sein du conseil municipal, notamment lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après 2 tours de scrutin secret, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. À égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Compte tenu de la configuration et de la rapidité et de la lenteur de ce type de vote, on peut pouvoir se prononcer pour faire cela à main levée. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste le cas échéant et il en est donné lecture par le maire. Vu le scrutin électoral municipal du Val du 10 mars 2019 et l'installation le 16 mars 2019 du nouveau conseil municipal élu, vu les statuts du syndicat intercommunal à vocation unique des espaces naturels de la forêt de la Louve, dit CIVU de la Louve, vu l'adhésion de la commune Duval au CIVU de la Louve par délibération en date du 24 juin 2003, considérant la nécessité de désigner des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil syndical du CIVU au nombre de 2 titulaires et 1 suppléant, le conseil municipal est donc invité à élire ses 3 délégués conformément au statut du CIVU du massif de la Louve. 2 titulaires et 1 suppléant. Donc, à ce titre, j'ai reçu... Excusez-moi. deux candidatures de titulaires, M. Luc Pernet et M. Max Favre, et pour les suppléants, M. Julien Lassoc. Y a-t-il d'autres candidatures pour donc représenter la commune au sein du CIVU de la Loupe? Non. Donc les personnes titulaires sont donc M. Luc Pernet et M. Max Favre pour représenter la commune, et le suppléant est donc Julien Lassoc. On passe donc à la délibération portant sur l'élection des membres, du membre représentant le conseil municipal au sein du SPLID 83. Pardon, excusez-moi, non. Suivez bien. Élection des membres représentants du conseil municipal au sein du Simielec VAR. Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2122-25 qui dispose que le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans le cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes, la fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2121-21 qui dispose qu'il est voté à bulletin secret au sein du conseil municipal, notamment lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation, dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. À égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée, comme on vient de le faire auparavant, pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. Vu le scrutin électoral municipal du Val du 10 mars 2019 et l'installation le 16 mars 2019 du nouveau conseil municipal élu, vu les statuts du syndicat mixte de l'énergie des communes du Var dit Simielec Var, vu l'adhésion de la commune du Val au Simielec Var, considérant que le syndicat mixte de l'énergie des communes du Var au Simielec Var est né en mars 2001, de la volonté de regroupement de quelques communes du département du Var sous l'égide de l'association des maires du Var pour permettre une organisation et une gestion efficace dans le domaine de la distribution publique de l'énergie électrique, c'est-à-dire l'éclairage souvent, le syndicat départemental étant un établissement public de coopération intercommunale, ce qu'on appelle un EPCI, regroupant aujourd'hui 140 communes, leur permettant de gérer en commun un problème d'intérêt commun, au site de la mutualisation. Considérant la nécessité de désigner des représentants du conseil municipal pour siéger au sein du conseil syndical Simielec Var au nombre de un titulaire et un suppléant. Donc les candidatures que j'ai reçues sont pour, en tant que titulaire, M. Norbert Giraud et en suppléant, M. Luc Pernet. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, M. Norbert Giraud est donc titulaire pour représenter la commune et M. Luc Pernet est donc le suppléant. Je passe à la délibération 4C concernant le SPLD ID 83.
Mes devoirs pour lire encore le texte.
On peut le couper ?
Oui.
Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2122-25, ainsi que le Code général des collectivités territoriales et son article L2121-21, donc on a les mêmes dispositions, vu les articles L1531-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales portant sur les sociétés publiques locales, vu le scrutin électoral municipal dernier du Val du 10 mars 2019 et l'installation le 16 mars 2019 du nouveau conseil municipal élu, vu les statuts de la société publique locale dite Ingénierie départementale 83, donc c'est bien SPLID 83, vu l'adhésion de la commune du Val à la société publique locale Ingénierie départementale 83 par délibération en date du 21 juillet 2011 et considérant la nécessité de désigner un représentant du conseil municipal pour siéger au sein du conseil d'administration de la SPLD ID 83, le conseil municipal est invité à élire son membre délégué conformément au statut de la SPLD ID 83. Donc j'ai reçu une candidature, un membre, c'est Claude Tourizilla. Y a-t-il une autre candidature? Donc Claude Tourizilla représentera donc la commune auprès du SPNV IV 83. Donc, on passe. Alors là. Oui, c'est ça, oui, donc c'est bien ça. Donc, élection des membres représentants du conseil municipal au sein du groupement de commandes des collectivités territoriales. Donc, c'est ce qu'on appelle le CIVAD. Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2122-25, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2121-21, vu les dispositions du Code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 et suivant, qui disposent que les groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés, un groupement de commandes peut également être constitué aux mêmes fins entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit privé qui ne sont pas des acheteurs, à condition que chacun des membres du groupement applique pour les achats réalisés dans le cadre du groupement les règles prévues par la présente partie. Vu le scrutin électoral municipal du Val du 10 mars 2019 et l'installation de son conseil municipal le 16 mars 2019, vu l'adhésion de la commune du Val par délibération date du 28 mai 2003 au groupement de commandes des collectivités territoriales du Var relevant du syndicat intercommunal varois d'aide aux achats divers dit le CIVAD, considérant qu'il convient en ce début de mandat d'élire les délégués communaux au sein du groupement de commandes des collectivités territoriales du Var pour siéger à la commission d'appel d'offres de ce groupement au nombre de un titulaire et un suppléant. Donc c'est important pour pouvoir après faciliter les achats des besoins de la commune. Le conseil municipal est invité à élire ses deux délégués au sein du groupement de commandes des collectivités territoriales. Donc je vais procéder donc au recueil des candidatures. J'ai reçu à ce jour donc une candidature pour le titulaire qui est Alain Alberti et une pour le suppléant, c'est Anastasia Bringuier. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc du coup, on peut procéder donc à l'inscription donc de Alain Alberti en tant que titulaire et Anastasia Bringuier en tant que suppléante. On passe donc à la suivante, qui est une délibération, donc la partie groupée, pour l'élection des membres qui représenteront la commune au sein de la mission locale de Brignoles, de l'Association des communes forestières du Var et la Fédération des villes jumelées et des communes européennes. Donc, vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et son article L2122-25, mais aussi de l'article L2121-21, et donc tout ce qu'on a vu auparavant, vu le scrutin électoral du Val pour le 10 mars 2019 et l'installation le 16 mars 2019 du nouveau conseil municipal, vu les statuts de la mission locale pour l'emploi siégeant à Brignoles, vu les statuts de la Fédération des villes jumelées et des communes européennes, et vu les associations des communes forestières du Var, vu l'adhésion de la commune du Val à la Fédération des villes jumelées et des communes européennes, donc nous allons procéder d'abord à la première délibération qui concerne la mission locale de Brignoles. Avant de procéder, vu l'adhésion de la ville, de la commune à l'association des communes forestières du Var et vu l'adhésion à la mission locale, considérant qu'il convient à ce moment de lire les délégués communaux au sein des diverses structures associatives auxquelles la commune est adhérente lorsque les statuts de ces dernières l'exigent, le conseil municipal est donc invité à élire ses délégués au sein des différentes structures suivantes. Mission locale, fédération des villes jumelées et association des communes. Donc, concernant la mission locale, j'ai reçu la candidature donc de Émilie Calabria en tant que titulaire et Violaine Champagnac en tant que suppléante. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Donc, Émilie Calabria et Violaine Charbonnière, représentant donc la commune au sein de la mission locale pour l'emploi qui siège à Brignoles. Ensuite, considérant la fédération des villes jumelées et des communes européennes, j'ai reçu la candidature de Françoise Remisky. Est-ce que Françoise, tu souhaites la conserver ou pas suite à...
Non.
Non, d'accord. Donc, y a-t-il une autre personne qui souhaite être titulaire donc, pour la fédération des villes jumelées et des communes européennes? Anne, d'accord. Donc Anne Reynaud se présente. Y a-t-il une autre personne en tant que titulaire? Oui. Jean. Donc là nous allons et après donc Jean, je retiens la candidature aussi, les deux candidatures, très bien. Concernant les suppléants, qui se présente pour être suppléant? Julien Lassoc, d'accord. Donc nous allons devoir procéder, je vous propose qu'on procède à votre main levée pour les deux candidatures. Anne, est-ce que tu souhaites conserver ta candidature?
Moi j'avais une candidature de suppléant.
Oui, mais comme tu t'es donc, oui. Donc à la limite, est-ce que tu préfères pas rester suppléante?
Oui, bien sûr.
D'accord. Et Jean, ou titulaire?
Titulaire.
Je ne trouve plus ça.
Oui, absolument.
Donc tout le monde est d'accord. Donc pour élire donc Jean en tant que titulaire de la commission des jumelages et Anne Reynaud en tant que suppléante. Tout le monde est OK?
OK.
Parfait. Donc bravo. Ensuite, concernant l'association des communes forestières du Var, j'ai reçu la candidature de Laurence Berlemont en tant que titulaire et de Julien Lassoc en tant que suppléant. Y a-t-il d'autres candidature? Non. Donc Julien Lassoc et Laurence Berland, pardon, est donc titulaire et Julien suppléant, donc de l'association des communes forestières du Var. Je propose de passer à la prochaine délibération qui est celle du CCAS, donc le Comité communal d'action sociale. Donc, la première délibération, c'est la 5A, qui va avoir pour objectif de déterminer le nombre de membres de conseil, du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc, avant de procéder à l'élection des membres du CCAS, le conseil municipal doit d'abord fixer par délibération le nombre des membres du conseil d'administration, comme le précise l'article L123-7 du Code de l'action sociale et des familles. Le conseil d'administration du CCAS est présidé par le maire, conformément à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, et il comprend en nombre égal au maximum 8 membres élus à son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Donc ce sont des habitants et des représentations d'associations départementales. Donc aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur le nombre à fixer, conformément aux dispositions des articles L123-6 et R123-7 du Code de l'action sociale et des familles, de fixer à 8 le nombre de membres élus en son sein par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du CCAS. Donc c'est le nombre maximum. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous adoptons donc le nombre à 8 pour siéger au sein du CCAS. Face à la suivante, c'est la désignation maintenant des membres qui vont siéger au sein du conseil d'administration. Conformément donc à l'article L123-8 du Code de l'action sociale et des familles, les membres du conseil d'administration du CCAS élus en son sein par le conseil municipal le sont normalement au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre des candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le siège ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. On a compensation. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restants à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Donc, je vous propose au conseil municipal de procéder à l'élection des 8 membres du conseil municipal, du conseil d'administration du CCAS et pour ce faire, sollicite les listes qui font acte de candidature. Y a-t-il des listes candidates? Est-ce que vous candidatez?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Donc, le groupe majoritaire propose comme liste Corinne Rinaudot, Gisèle Conforti, Violaine Champagnac, Émilie Calabria, Pauline Neveu, Christian Bentoumi, Françoise Vraniski et Anne-Marie Reynaud. Donc dans la mesure où il n'y a qu'une seule liste, est-ce, normalement, on doit procéder normalement. Oui.
Les mecs se sont silencieux là-dessus.
Donc,
il y a un choix à faire, monsieur le maire. Soit la sécurité un peu lourde, pour le temps de tout le monde, c'est de procéder quand même vote, soit...
Je préfère prendre la sécurité quand même, d'être carré.
Et théoriquement, les suffrages peuvent être tous portés.
Je sais. Donc, on va procéder donc au vote bulletin secret, pour être sûr. D'être dans les clous, parce que c'est la loi qui l'impose. Donc, il faut les deux assesseurs. Je propose, puisqu'on a des assesseurs expérimentés, de reprendre. Je vous remercie. Donc, Anastasia Brinquier et Jean Culinati.
Vous prenez la carte. Thank you.
Voici la proclamation des résultats pour l'élection des membres du CCAS. Nombre de votants, 27. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 27. Nombre de bulletins blancs ou nuls, 0. Suffrage exprimé, 27. Suffrage obtenu par la liste, donc la unique présentée, 27. Donc la liste 1 obtient 8 sièges. Ainsi sont donc élus membres du conseil d'administration du CCAS, Madame Rinaudot, Madame Conforti, Madame Champagnac, Madame Calabria, Madame Netveu, Monsieur Bentoumi, Madame Vreniski et Madame Reynaud. Je vous remercie pour l'élection du CCAS qui va, bien qu'il y ait certains membres de l'action sociale avaient commencé, va pouvoir œuvrer maintenant, car il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de travail à faire sur notre commune. Là, nous allons passer donc à la délégation 6, qui consiste donc à donner les délégations au maire en application des dispositifs de l'article L2122 du CGCT. Donc ces délégations, en fait, elles sont données pour faciliter la rapidité d'action et qui permettent d'éviter de réunir pour chaque prise de décision l'ensemble du conseil municipal. Donc, c'est un pouvoir que vous donnez au maire. Et ce pouvoir permet d'agir au nom du conseil municipal sans le réunir. Donc ce sont des délégations qui sont très importantes à bien penser pour équilibrer la représentativité et l'action que vous allez me confier. Pour cette délégation, puisque je suis le principal concerné, je ne peux pas participer donc à l'élection, à, au vote de cette délibération. Et donc je donne la parole à Monsieur Christian Bentoumi qui va donc organiser cette élection, ce vote, et moi je vais me retirer de la pièce pour le bon déroulement du débat.
Alors, délégation du conseil municipal au maire dans le cadre des dispositions de l'article I-2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Le Code général des collectivités territoriales dispose au titre de son article L-2122-22 que le conseil municipal peut confier au maire différentes délégations lui permettant d'intervenir dans des domaines courants de l'administration sans devoir pour autant attendre pour cela chaque tenue du conseil municipal. Ces délégations s'exercent sous l'entier contrôle du conseil municipal, puisque le maire rencontre régulièrement à l'Assemblée de l'usage de ces délégations conformément aux dispositions de l'article L2122-23 du même code. Il est précisé que s'agissant des dispositions relatives au marché public, il est ainsi proposé que ces délégations ne portent que sur les marchés dits à procédure adaptée, appelés communément MAPA, et que les recours à des délibérations du conseil municipal soient conservés pour les procédures dites formalisées qui relèvent de la commission d'appel d'offres. De même, le maire n'a pas souhaité solliciter les délégations possibles en termes de souscription d'emprunt qui demeureront une prérogative du seul conseil municipal. Il est ainsi proposé au conseil municipal, en application des dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, de charger Monsieur le maire pour la durée de son mandat. 1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. De fixer les limites d'un montant de 5 000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants. Lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans les limites définies d'une part par les seuils légaux de formalisation des marchés publics et d'autre part par les dispositions relatives aux procédures adaptées portées à l'article L2123-1 du Code de la commande publique. 4. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 5. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 6. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 7. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 8. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 9. De décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. 10. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 11. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 12. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 13. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. La délégation s'applique en défense comme en demande, au fond ou dans le cadre de référé, quel que soit le mode d'intervention, en instance, sur assignation, mise en cause ou appel de garantie, dans le cadre d'une intervention volontaire ou d'une constitution de partie civile, etc. Tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif, et quel que soit le degré de juridiction pour toutes les actions destinées à préserver ou garantir les intérêts de la commune ou de transiger éventuellement avec les tiers dans la limite de 1 000 € déterminée par le Code général des collectivités territoriales pour les communes de moins de 50 000 habitants. 14. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans les limites d'un montant maximum fixé à 20 000 euros. 15. De donner, en application de l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 16. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 200 000 euros par année civile. 17. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 18. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 19. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 20. De procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 22. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au I de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. En outre, les décisions prises par le maire dans le cadre de ces dispositions sont soumises aux mêmes règles de contrôle et de publicité que les délibérations, et le maire est tenu d'en rendre compte à chaque réunion du conseil municipal, lequel peut toujours mettre fin à la délégation. Je vous demande de voter. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité. Excusez-moi. Alors, une abstention, M. Cœur-d'œil. Et si quelqu'un peut aller chercher M. le maire, merci.
Nous allons passer sur la partie dédiée aux finances, donc sur la première qui est donc la convention avec la trésorerie portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer pour l'adoption de la convention annexée que vous avez reçue à la présente, passée entre l'ordonnateur, donc le maire, et son comptable assignataire, le trésorier, visant à développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable public. Cette dernière s'appuie sur la Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leur établissement public, signée par la DGFIP, et les associations nationales représentatives des élus locaux. La présente convention se fixe comme objectif de renforcer les relations de travail existant entre les services des deux structures publiques dans le but d'améliorer tout simplement le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de l'action en recouvrement. Donc la convention, tout le monde l'a reçue. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc à l'unanimité, la convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux est adoptée. Et enfin, nous arrivons à la dernière délibération qui porte sur le concours du receveur municipal et son attribution des indemnités. Donc, vu l'article 97 de la loi numéro 82.213 du 2 mars 82, modifié relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, vu le décret 82.979 du 19 novembre 82 précisant les conditions d'octroi d'indemnité par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'État, Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 83 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité du Conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, le Conseil municipal est invité à donner son accord pour demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définie à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 83. Accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an à compter de 2019. Que cette indemnité soit calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 83 précité et soit attribuée à Gomez Jean-Claude, receveur municipal, que nous recevrons bientôt pour discuter de la préparation et l'élaboration du budget que nous devrons voter à la fin du mois. L'indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années. Donc sur les 7 622,45 euros à raison de 3 pour 1000, sur les 22 867,35 euros suivant à raison de 2 pour 1000, sur les 30 489,80 à raison de 1,50 pour 1000, sur les 60 679,61 euros à raison de 1 pour 1000, sur les 106 714,31 euros suivant à raison de 0,75 pour 1000, sur les 152 499,02 euros suivant à raison de 0,50 pour 1000, sur les 228 673,53 euros suivant à raison de 0,25 pour 1000. Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros à raison de 0,10 pour 1000. En aucun cas, l'indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150. Lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45,73 euros à compter de 2019. Alors, à titre d'information, dans votre stage, je me suis posé la question de combien ça représentait à l'échelle d'une année. Donc, j'ai demandé aux services financiers de nous informer sur l'année dernière, pour un petit peu comparer, ça correspond à 784,24 euros. Voilà pour donner l'ordre de grandeur à chacun. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, nous approuvons le concours du receveur municipal et son attribution aux indemnités. Donc, nous avons passé l'ensemble des délibérations, des points abordés à l'ordre du jour. Je souhaite à vous remercier pour ce travail. Je souhaitais aussi vous informer que, à la différence des autres conseillers municipaux déroulés, c'est des petits gestes, mais l'eau que vous avez, c'est l'eau du Val, Candébro, pas de petites bouteilles, comme ça il n'y a pas de déchets, et aussi on boit de l'eau d'ici. Donc ça c'était aussi un petit signe, c'est symbolique, mais le symbole est important aussi, à mon sens. Je souhaite donc, comme nous sommes dans une ouverture, une volonté d'ouverture démocratique, avez-vous, chers collègues du conseil municipal, des questions au sujet de ce conseil municipal? Et on peut les ouvrir aussi. Monsieur Carlet.
Alors, j'avais deux questions à poser. Une, vous avez apporté une réponse en début de conseil, ça. C'est une question à propos du PLU. Vous nous avez indiqué que vous entendez, c'est bon? Vous nous avez indiqué que vous alliez voter très prochainement le PLU. Donc voilà, la réponse. Maintenant, ça concerne le cabinet médical. Vous avez, dès vos prises de fonction, vous avez apposé une affichette sur le quartier de la Rivière qui indique l'implantation de ce projet de cabinet médical n'est pas conforme aux orientations du PLU. Son emplacement nécessite une nouvelle réflexion en concertation. Alors, concernant la conformité à l'OAP du PLU, si vous avez bien lu la pièce PC4 de la notice descriptive du permis déposé, il y a une Je vais pas tout vous lire. Pas loin de la ligne. Donc la situation du projet au regard du PLU a été parfaitement explicitée, détaillée, en précisant que ce projet était provisoire, puisqu'il y avait le projet de réaliser un pôle médical, et pour pallier dans l'urgence à la désertification médicale qui commençait à s'installer au Val, il avait été décidé à l'époque de réaliser dans l'urgence ce bâtiment en le rendant, c'est une consigne qui a été donnée à l'architecte qui a travaillé dessus, en le rendant évolutif pour permettre la récupération en salle de yoga, gym douce, etc. Donc conforme à l'OAP. Cette explication donnée donc, dans cette pièce administrative a reçu l'accord des services de l'État. C'est prononcé de façon favorable. Donc dire que cette implantation n'est pas conforme à l'OAP, je dirais, c'est une erreur d'appréciation. Alors maintenant, si vous avez la volonté de le faire ailleurs, de ne pas le réaliser, autre, c'est autre chose, mais je tenais à préciser ce point en la matière, quelles sont vos orientations ? Voilà ma question.
Donc pour vous répondre, en termes d'appréciation, nous n'avons pas forcément la même, puisque d'après l'OAP, que vous avez préparé, et on est en train de travailler dessus, cette OAP a vocation d'accueillir sur des activités sportives. Donc demain, si on approuve le PLU, il faut qu'il y ait des activités sportives qui se produisent là, et non un accueil médical. Donc, dans ce sens-là, nous ne sommes pas favorables de réaliser ce projet, puisque pour nous, dans notre appréciation, il n'est pas conforme à ce projet, puisque la maison médicale se situe derrière la mairie, d'après l'OAP que vous aviez mis en place. Donc, dans l'élaboration du PLU. Donc, demain, nous ne sommes pas dans un désert médical, puisque nous avons un médecin généraliste qui est arrivé en début au mois précédent, et nous avons rencontré une femme, médecin généraliste, qui serait intéressée de venir sur le Val. Nous avons une pharmacie, donc pour l'instant, je ne pense pas que nous soyons dans une situation de désertification médicale. En ce qui concerne la maison médicale, nous, son idée d'un pôle plus général, nous ne sommes pas contre l'idée, ça nous l'avons évoqué à plusieurs reprises lors des réunions au cours des derniers mois, mais cela nécessite de mettre en réflexion, puisque le choix de ce positionnement doit répondre autant aux professions médicales que l'on rencontre actuellement, les professionnels de santé, et on va continuer à les rencontrer, mais aussi aux patients et les usagers qui pourraient être intéressés. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être ouvert à la réflexion, et à mon sens, pas fait dans la précipitation, mais dans la réflexion au cours de cette année. Voilà ma réponse.
Une chose à la précipitation, sur ce projet, il y a eu réflexion et il y a eu réponse à une problématique que nous avons, où des médecins vont venir s'installer et où, or, on sait très bien le problème aujourd'hui de tout, de l'utilisation de locaux anciens qui ne sont pas conformes en sécurité, qui ne sont pas conformes en accessibilité. Et en fait, les professionnels, c'est ce qui concourt à la désertification des centres-villes, parce que les locaux ne sont plus conformes et les professionnels ont besoin de locaux modernes, adaptés et surtout correspondant aux normes qui leur sont imposées.
Donc pour vous répondre, aujourd'hui, il y a des dérogations qui leur permettent pour l'instant de travailler. Et l'idée, l'objectif, c'est de leur donner un signal pour les rassurer, pour les fixer, leur dire à terme, on est dans cette réflexion-là. Donc il faut les associer et pas de suite les mettre à notre sens dans un bâtiment provisoire au milieu donc d'activités sportives qui pourraient impacter le développement qu'on pourrait faire par la suite. Ça, c'est un choix politique arrêté. Ça, c'est la vision que l'équipe partage. Nous avons longuement discuté à ce sujet. Donc voilà. Donc pour l'instant, nous souhaitons installer des nouveaux médecins qui sont intéressés de venir et de réfléchir avec eux sur le développement de la suite. Soit sur des continuités de village, soit sur des réhabilitations en rez-de-chaussée aussi. Il y a la réflexion, elle est ouverte, et ça, c'est ensemble qu'on peut le faire.
Oui, je voudrais quand même juste repréciser quelque chose concernant donc, le permis de construire que j'ai regardé. Il me semble quand même qu'il est précisé par le maître d'œuvre que l'OAP de la Joubert doit faire l'objet d'une modification dans le cadre de l'approbation du PLU. Donc, quand on parle de non-conformité, c'est peut-être exagéré, mais l'OAP telle qu'elle était posée ne correspondait pas à l'installation d'une maison médicale et donc il fallait modifier l'OAP. Et ça, je le précise puisque vous ne l'avez pas dit, monsieur Cordeuil.
La modification de l'OAP, d'ailleurs, c'est expliqué dans la notice descriptive du maître d'œuvre. L'OAP qui a été prévue, demandée par le cabinet BGA, demandée au cabinet BGA, ah oui. L'OAP prévue envisageait de répondre à une demande de la communauté d'agglo qui voulait développer le plateau sportif. Or, à cette époque, l'ensemble, certains dans le conseil municipal se sont opposés à ce que la communauté d'agglo intervienne sur les terrains de la commune rurale. Donc, cette décision a été retirée. Mais le bureau d'études, en attendant, avait monté son dossier. Et l'OAP a été fixé dans cet état d'esprit. C'est pourquoi on a parlé de modifier cette OAP. Absolument. Pour réduire, en fait, les capacités d'activité sportive qui étaient largement surdimensionnées du fait de la demande de la communauté d'agglo et des communes avoisinantes. Voilà, c'est pour cette raison que tout a été mis en place de cette manière-là. Donc, pas pour essayer de faire des choses, mais en pleine conscience qu'il y avait une nécessité de réduire l'OAP concernant l'activité sportive, avec la possibilité, en mettant un bâtiment, en laissant évolutif, la possibilité, avant que le pôle médical soit réalisé, de recevoir des médecins dans d'excellentes conditions, recevoir le public avec l'accessibilité handicapée, les conditions de sécurité, etc. Et ce bâtiment pouvant ensuite être utilisé par les associations à vocation sportive. C'est pour ça que je parlais de langage, de douce.
Mais ce type de projet, à notre sens, nous semble un peu prématuré, fait dans la rapidité, et on préfère prendre plus de temps pour répondre à cette demande et accompagner au mieux donc les professionnels de santé. Y a-t-il d'autres questions? Oui.
Je voudrais revenir sur la crèche.
Oui.
Donc, je vais donner un petit historique. Quand nous avons acheté le terrain de la crèche, et nous avons procédé à la pose, enfin, au projet de cette crèche, nous n'avions pas de terrain. Et ce terrain où on pouvait mettre cette crèche, c'était l'endroit où il est prévu maintenant. Nous avons, la dernière de ce projet, nous avons acheté quand même le foncier. C'est très intéressant pour la commune, le foncier, même s'il a été un peu cher, on le dit, mais c'est très important d'avoir du foncier dans une commune. Moi, je suis tout à fait d'accord de changer la crèche de place. Mais là, nous l'avions préparé ça en 2015. Nous sommes 2019. Elle sera peut-être, si on la laisse sur le même terrain, démarrée en 2020. 6 ans. Est-ce que un changement de lieu de terrain, ça va faire qu'on nous retarder de plusieurs années ou plusieurs mois?
Alors, je vous réponds, nous avons négocié avec l'agglomération et son président, notamment, qu'on ait une année de réflexion pour le positionnement, pour redélimiter la parcelle, et que, donc, on a négocié avec Anne, qui était avec moi, donc, on va juste reporter d'un an le projet de financement de la crèche. Le seul impact, il est là, ce qui me semble tout à fait raisonnable.
C'est tout à fait raisonnable, mais... Moi, j'ai peur que là, 5 ans avant, 6 ans avant de poser une crèche, si ça recule encore de 6 ans, on pourrait avoir peut-être des problèmes de...
Alors, moi, j'ai la promesse de la Blue,
ça a été... Pour le changement...
Pour répondre, après, moi, je ne suis pas... Sur 5 ans, je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé avant. Nous, en un jour après l'installation, on a négocié ce qu'on nous a dit pendant 5 ans qui n'était pas possible. Donc je trouve que déjà on a été assez efficace sur une année. Donc j'ai entière confiance au sein des membres du conseil et de nos très bonnes relations avec l'agglomération Provence Verte pour pouvoir assurer ce projet à partir de l'année qui va suivre cette réflexion.
Merci.
Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Donc avant de clôturer la séance, j'ai une demande un petit peu particulière à vous faire, puisque comme vous le savez, il y a eu un renouvellement du conseil municipal et il y a des élections qui sont prévues, élections européennes, et pour cela, je dois désigner des membres de la commission de contrôle des listes électorales. Donc ça, c'est suite à un courrier de la préfecture du 20 mars 2019. Il doit y avoir 5 membres au sein du conseil municipal, membres volontaires, pris dans l'ordre du tableau, 3 membres issus de la liste majoritaire, hors maire et adjoint, et un membre de la liste d'opposition 1 et un membre de la liste d'opposition 2. Jean, alors on va commencer à l'envers. Jean, monsieur Cugnati.
C'est obligatoire.
Oui, ça se remercie. Ensuite, concernant la liste d'opposition 1.
J'aurais la même réponse que Jean, c'est obligatoire.
Oui, dans quel ordre? Donc, du coup.
C'est moi qui m'y colle.
Donc, si c'est dans la liste du tableau, ok.
Monsieur Cœur-d'œil.
Et donc, 3 membres issus de la liste majoritaire. Donc, si on fait dans la liste de tableau, ça va être à partir de Monsieur Morel. Alors, déjà, on va voir un peu s'il y a des volontaires et après, on les met dans la liste du tableau. Donc, il y a Monsieur Morel. Julien, la SOC.
Je suis
là. Alors, Gisèle, Françoise, comment vous voulez vous.
Comment? Oh, comme tu veux. Moi j'ai l'habitude, donc c'est pour.
T'as l'habitude?
Oui.
Moi je connais.
Je suis à force.
Bon. Comment vous voulez faire?
Comme tu veux, allez, je te la laisse, la place. Allez.
Oui, Françoise, allez, comme ça. Allez. Comme ça, Gisèle, tu la conseilleras.
Allez,
super.
Tu vas la
trier.
Merci.
Non.
Non.
C'est bon, c'est Françoise. D'accord. Donc, je vais remplir le formulaire. Je vous invite juste qu'on le signe après hors séance. Là, c'était juste, voilà. Donc, je voulais qu'on le fasse et que ça soit aussi, ça fasse partie de la séance. Donc, vous allez le signer. Donc, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous remercie. Attendez. Donc, il est donc 20h25. Donc, je lève la séance. Donc, je vais m'adresser maintenant auprès des Valoises et Valois qui sont venus aussi, mais aussi l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, merci de votre patience. C'était parfois long et ça se mérite aussi la patience. Nous, on a bu de l'eau du Val, mais je vous invite à venir voir un pot de l'amitié qui est juste situé dans le hall. Je tiens à préciser que ce pot est offert par la majorité. C'est nous qui offrons le verre de l'amitié. Voilà, c'est hors budget municipal. Donc, au plaisir d'échanger avec vous et merci encore.
Je vais rester à la maison.